Vous écoutez Radio Campus Lille, c'était les Ch'tiliriques. Alors vous remarquerez que dans cette chanson, on n'a pas cité une seule fois le nom de la ville de Lille. Bon, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2013, il est midi légèrement passé. Et avec nous, les journalistes du journal La Brique qui viennent nous présenter leur dernier numéro, le numéro 37, Logement, fabriqué lambourgeoisement. Une équipe nombreuse autour du poste, je vous laisse vous présenter. Tonio,
salut André.
Bonjour, enfin salut André et surtout...
Salut tout le monde.
Surtout les auditeurs, donc Raph...
Ouais.
Voilà, c'est cela.
Salut les auditeurs.
Et excuse-moi.
Et Thomas,
voilà. C'est... Bon, une grande première. Enfin, cette semaine, l'équipe de La Brique est souvent passée à Radio Campus, vendredi soir. Il y a eu une émission sur leur numéro lundi midi, après un long silence. Voilà, on a renoué les contacts et j'espère que vous passerez plus souvent. Enfin, vous passerez plus souvent à chaque numéro. Hein. Alors donc, le dernier numéro, encre noire sur les municipales, il y a une nouvelle formule en deux mots, et après on parlera plus précisément des articles.
Hein. Ouais. Alors, effectivement, pour dire peut-être en quelques mots ce qu'on avait peut-être un peu pris le temps de déballer vendredi soir, en fait, l'idée c'est que le nouveau canard, là, le numéro 37, il se distingue un petit peu des précédents, alors pour plusieurs raisons, hein, mais disons que l'idée c'est que l'équipe de La Brique, elle a petit à petit évolué, on était un petit peu moins nombreux ces derniers temps. On commençait un petit peu, éprouvait un petit peu de lassitude avec les numéros tels qu'on les confectionnait jusqu'à présent. Du coup, on s'est dit qu'on voulait recommencer à bosser ensemble, c'est-à-dire partager un peu une même thématique et puis revenir ensemble sur les différents papiers pour créer un petit peu de dynamique et puis redonner un petit peu de mordant au travail qu'on pouvait essayer de faire. Il y avait un autre truc aussi derrière cette idée de changement de formule, c'est que on voulait approfondir, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin sur des sujets qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, quoi, mais sur lesquels généralement on ne peut passer que relativement vite. Donc là, c'est pour ça que les 20 pages de ce numéro-là sont entièrement consacrées au logement, avec en arrière-plan un truc assez particulier, qui est que on s'achemine tout doucement vers une campagne de municipale qui promet d'être particulièrement soporifique, propagandiste, etc. Et que pour nous, c'était un peu l'occasion, alors non pas de jouer le rôle de parti politique, on n'est pas là pour ça, mais de foutre les pieds un peu dans le plat et puis d'arriver avec 3-4 infos pour chatouiller les élus, les puissants, et puis pour qu'ils se positionnent et que surtout que les gens s'approprient derrière toutes ces questions-là.
Si je peux rajouter un truc, ça nous a permis aussi de faire, ceux qui achèteront le canard le découvriront, mais toute une première partie du canard qui s'attache à décortiquer un peu ce qu'est la politique urbaine de la ville de Lille et de la métropole, et toute une deuxième partie du journal qui, elle, s'attache à mettre un peu en avant les alternatives. Alors voilà, comment on peut faire au sein du logement, au sein de cette thématique du logement, pour sortir un peu du logement capitaliste, du logement marchand tel qu'on le voit partout à Lille et sur la métropole. Et au-delà. Et donc voilà, on met en avant 2-3 initiatives. Il y a l'habitat coopératif, l'habitat partagé, il y a le squat, il y a les luttes urbaines en faisant un focus sur la lutte de l'Almagar à Roubaix. Voilà, ça nous permettait aussi de ne pas être dans le négatif tout le temps et d'essayer de donner un peu de positif, positive attitude.
Voilà, donc quelques titres. Hein, donc là. L'habitat et la ville de Lille, la fabrique de l'embourgeoisement, Lille Métropole Habitat, bailleur antisocial, Métropole Lilloise, la ségrégation en action, Oisem, gentrification et lutte des places, donc bois habité, carte blanche au Star Architect, Big Brother, vers une ville sans humain. Enfin bon, bah, tout ça, vous allez chez votre libraire dans la région lilloise, n'hésitez pas à acheter le numéro, c'est pas cher, c'est 2 euros, un peu d'encre noire sur les municipales. Alors pour ce qui est de la, la campagne municipale là, qui risque d'être classique, tout ça, bon, je signale que le 2 décembre, au Café Citoyen, il y a une petite réunion, l'église de la Très Sainte Consommation va présenter son ou ses candidats, donc n'hésitez pas à y aller, ça va animer un peu. Voilà.
Une autre façon de voir la politique lilloise.
Voilà, il y a d'autres façons de voir la politique lilloise. Ouais, voilà.
Et leur pré-clip de campagne qui est déjà en ligne.
Le pré-clip est en ligne, oui.
Voilà. Alors nous, évidemment, c'était pas, nous, on n'est pas là. Enfin, je pense que c'est un peu précisé au départ dans le canard, hein, mais nous, on n'est pas là pour donner les bons et les mauvais points dans la campagne. On n'a pas cette prétention-là. Et puis de toute façon, politiquement, le canard s'est jamais positionné en soutien de d'une quelconque obédience. Nous, en fait, l'idée, c'était de revenir de manière un peu précise et approfondie sur des thématiques dont on sait qu'elles sont au cœur à la fois du quotidien des gens et au cœur du discours politique dominant, donc en l'occurrence celui des socialistes, mais pas uniquement, parce qu'il y a plein d'enjeux qui se jouent au niveau non pas de la mairie, mais de la métropole, et sachant que la métropole se cogère entre droite et gauche de manière particulièrement cordiale et amicale. Donc nous, c'était de revenir un peu là-dessus, avec d'abord donc cette question du logement. Alors le logement, c'est une question qui est intéressante pour pas mal de raisons. D'abord parce que effectivement, donc c'est un truc qui est indécrottable dans notre quotidien. Hein. Enfin, ça colle à nos semelles. C'est les loyers qui ne cessent d'augmenter. C'est la taxe d'habitation qui vient de tomber. C'est les murs moisis par l'humidité. C'est tout ça. C'est aussi un truc dont on a été progressivement dépossédé, hein, par des instances qui, en plus, non seulement gère toutes les questions de construction, qui gère toutes les questions de loyer, mais qui en plus ont le monopole du discours sur le logement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire que, pour parler un peu plus concrètement, le PS, en l'occurrence, si on met un petit peu en perspective, dans son programme de 2012, il se plaignait du fait que, depuis les années 70, en fait, la part des loyers dans l'argent dont disposaient les ménages, elle avait explosé. C'est-à-dire que, dans les années 70, je ne sais plus, c'était genre un huitième des dépenses des ménages. Aujourd'hui, c'est entre un quart et un tiers. Donc, il déplorait en disant « Ah, faut mettre en œuvre toute une série de politiques, etc. » La politique à Lille, donc toujours des mêmes socialistes, hein, ceux qui ont fait ce programme de 2012, c'est celle qui a conduit, entre les années 2000 et les années 2010, à ce que les loyers, le coût du loyer, il double au mètre carré. Donc, on a d'un côté des gens qui se lamentent de la cherté des loyers, et d'autre part, ces mêmes gens qui mettent en œuvre l'augmentation de ces loyers. Donc, c'est un peu sur ce paradoxe-là qu'on voulait revenir, donc c'est pas du tout un paradoxe, hein. C'est qu'au final, derrière, il y a un vrai projet politique de la part des socialistes qui, derrière donc tous les gargarismes sur la mixité sociale, en fait, ont un projet très clair, c'est-à-dire vider progressivement la ville des ménages les plus pauvres, ceux qui constituent de mauvais foyers fiscaux, et faire venir des cadres avec un petit peu plus de pouvoir d'achat, les cadres dynamiques, hein, qui collent très bien avec l'image que la métropole cherche à donner d'elle-même. Donc nous, c'était un peu là-dessus, donc mettre en balance à la fois donc tout le topo d'Aubry qui se gargarise de garder les quartiers populaires en son sein, mais qui dans le même temps a réussi à faire de Lille la troisième ville la plus chère de France en l'espace de 10 ans, ce qui est quand même assez miraculeux.
Voilà, après c'est la spéculation immobilière, c'est la finance. Le coût des logements a doublé ou triplé en deux décennies. Je ne connais pas les chiffres exacts, c'est difficile à savoir. Ils ont fait des spécialistes, hein. Dominique Troscan passait souvent à Lille à une certaine époque. Enfin, d'après ce qu'on nous a dit, faut pas l'oublier, quoi. Et ça n'est pas terminé. La spéculation immobilière et financière continue de plus belle.
Et justement, par rapport à ça, il y avait tout le côté, effectivement, spéculation financière, les promoteurs privés, tout ce qui vient du privé. Et puis, toutes les politiques publiques, tout ce qui vient de... Et puis là, ça a été aussi un choix qu'on a fait. On n'a pas du tout abordé l'aspect du privé, le parc immobilier privé, comment il est géré, les gros propriétaires à Lille, le CHR, par exemple, ou le diocèse, qui sont des gros propriétaires. On n'en a pas du tout parlé. Parce qu'on se concentrait... Sur ce thème, comme tu l'as dit, le logement, on l'a choisi parce que c'est aussi, c'est numéro 1 ou numéro 2 dans le bilan de Martine Aubry qu'elle va présenter pour les municipales. C'est comme la culture, notre prochain thème, c'est la même chose. Donc,
Alors, le logement à Lille, d'après mes souvenirs, il y a à peu près 100 000, 110 000 logements à Lille, c'est ça ? Et sur lesquels il y en a un petit 10 000 de vide, si mes souvenirs sont exacts. En sachant que ce sont des statistiques anciennes, il est difficile d'avoir des chiffres récents, non ?
Si, alors sur les logements vides, il me semble que les chiffres sont réactualisés.
Sont réactualisés
progressivement. Donc là, c'est un peu moins de 10 000. Hein, je crois que le taux de logements vacants, qui pourrait éventuellement donner des idées à certains, il a plus ou moins stagné autour de 7 000-8 000 ces derniers temps. Alors, ce qui remet un peu sur le tapis, mais bon, ça, c'est pas à nous de statuer là-dessus. Hein, mais le fait que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose de ces logements vides, que visiblement c'est pas le cas, que c'est pas une priorité, que les socialistes veillent à rester dans la légalité et à ménager les intérêts des propriétaires.
Voilà, on les laisse se dégrader, tout simplement. Alors moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé il y a une dizaine d'années. J'étais à pied rue d'Artois à Lille. Et puis je regarde les sonnettes des maisons, tiens, une association, tiens, la maison suivante, une association, tiens, la maison suivante, une association, tiens, la maison suivante, encore une association. J'étais extrêmement surpris. Est-ce que ces logements sont comptabilisés comme logements vides ? Je ne pense pas.
Ah non.
Ils sont occupés, oui. On est d'accord. Oui. Donc 7 à 8 000 logements vides plus un tas qui ne sont pas habités.
Après, on pourra en reparler, mais ouais. C'est surtout aussi la division des logements. C'est-à-dire, avant, ce qui était une grande maison et qui pouvait accueillir une famille, aujourd'hui, est divisé en plusieurs petits appartements. Et donc, de fait, les logements à bas prix pour des grandes familles nombreuses, cela diminue de manière radicale dans la ville de Lille. Et par contre, les petits logements qui coûtent, eux, beaucoup plus cher, cela augmente. Et ça, c'est le résultat, effectivement, du laisser-faire au niveau des propriétaires privés qui s'en plein les poches,
au niveau du logement, il suffit de regarder aussi les villes autour de Lille, je ne sais pas moi, Douai, Valenciennes, Lens et autres. Il y a toute une classe sociale qui a été transférée à Lille. D'ailleurs, on peut voir la progression dans votre journal. Vous publiez une carte en couleur de la gentrification de Lille.
Sur cette carte-là, on peut revenir rapidement. On a essayé de faire ça en montrant qu'à Lille, alors si par exemple à Paris, le phénomène d'embourgeoisement, il part plutôt de l'ouest pour aller vers l'est, à Lille, il vient plutôt du nord et il descend vers les quartiers sud. Et donc on voit, en ce moment, c'est les quartiers de Moulins, Oisem qui sont directement concernés et qui partent aussi sur le faubourg est comme Fives. Et donc on essayait de monter un peu les dynamiques un peu qui se font avec généralement des pôles culturels qui sont installés en front de cette avancée comme ça.
La culture est à l'avant-garde.
Voilà, donc c'est un peu une carte qui va faire le lien peut-être un peu entre ce numéro sur le logement et le numéro sur la culture. C'est-à-dire que, encore une fois, on l'a dit, ça va être peut-être le premier, la culture, et le deuxième au niveau du bilan municipal de Martine Aubry. Les deux dynamiques, elles avancent ensemble et de concert, et elles sont en tout cas pensées vraiment dans ce sens-là.
Voilà, donc on va aborder finalement quelques-uns de vos articles. Alors, quand on boucle un journal, bon, on a fait des choix. Deuxièmement, on continue de réfléchir. Alors, quels sont vos plus grands regrets lors du bouclage du journal ? Je sais pas. Il y a des articles sur lesquels vous voulez revenir ?
Alors moi, je peux peut-être en dire un regret qui fait écho en plus à un article qui est paru aujourd'hui dans le journal La Voix du Nord. Donc c'est paru aujourd'hui en page 16, un article de Frédéric Lecluise qui montre l'installation en fait de logements sociaux dans l'ex-siège de la Poste qui est au niveau du quartier de République.
D'accord. Et immense bâtiment. Oui.
Voilà, cet immense bâtiment qui était en travaux depuis quelques années et on avait voulu pendant l'élaboration du journal vraiment peut-être y donner une place un peu plus importante, une place qu'on n'a pas donnée aujourd'hui parce que vraiment en fait cet exemple-là va servir de contre-exemple à toutes les choses qu'on a montrées à l'intérieur de ce journal, c'est-à-dire que nous quand on montre qu'il n'y a pas de construction de logements sociaux ou en tout cas pas assez par rapport à l'ampleur que prend le parc privé, que de fait les constructions de logements sociaux les logements sociaux sont en train d'être rénovés, on est en train d'y mettre de la mixité sociale, ça va être l'exemple qui va nous être en permanence redonné, remis et rétorqué en tout cas sous nos arguments. Et donc voilà, donc ils ont inauguré hier donc ces logements sociaux qui sont dans l'ex-siège de la Poste. C'est 57 appartements. Il faut savoir que déjà, il y en aura 10 qui seront réservés pour les cadres qui seront de passage dans la métropole ou en tout cas qui arriveront dans la métropole. Les autres seront... le bailleur social sera Villogia, qui n'est pas un des bailleurs sociaux les plus progressifs ou en tout cas les plus conciliants avec ses habitants les plus pauvres. et ça va venir contredire la chose qu'on dit dans le premier article important du journal, qui est un article qui s'appelle « L'habitat et la ville de Lille, la fabrique de l'embourgeoisement », qui est un article un peu théorique, assez technique aussi, mais qui nous a semblé important à être mis là en début de journal, parce qu'il va essayer de décortiquer un peu quels sont les mécanismes par lesquels la ville de Lille essaye de transformer sa population, et en tout cas de faire advenir le plus de cadres et de catégories aisées en fait dans la ville. Et alors là, les copains qui ont fait ça insistent sur trois points. Il s'agit en premier cas d'attirer les classes moyennes supérieures à l'intérieur de la ville. Dans un deuxième cas, de laisser les promoteurs et la propriété et les propriétaires privés faire leur tambouille aussi au sein des endroits où il y a de l'intérêt à investir. Et la troisième, c'est de réduire l'offre de logement à bon marché. Alors, ils développent ces trois arguments-là de manière assez convaincante à mon sens, c'est-à-dire en montrant que déjà il y a toute une partie du logement qui est appelée social, qui n'est pas du logement social, qui est accessible à 80% de la population pour la première catégorie. Il y a tout ce qu'on appelle l'accession sociale à la propriété, qui est de soi-disant permettre à des ménages qui n'ont pas beaucoup d'argent d'accéder à la propriété, et on se rend compte qu'il y a des magouilles techniques. Alors c'est pour ça que je disais là, c'est un peu technique et un peu difficile, mais il y a des magouilles qui font que, comme les revenus des personnes qui peuvent acquérir sont calculés sur 2 années, voire 3 années avant le fait de rentrer dans les lieux, des jeunes cadres peuvent avoir accès à ces logements dits en accession sociale à la propriété.
Oui, maintenant... On en est à un tel point que il faut du social pour les cadres. Sinon, ils ne pourraient pas accéder à la propriété, ou alors beaucoup plus difficilement. Enfin, on passe la parole à...
Ouais, mais justement, moi là-dessus, nous, c'était... effectivement, on peut déplorer l'augmentation continue des loyers de manière générale. Bon, nous, on n'est pas forcément là pour prendre la défense des cadres et les difficultés qu'ils peuvent éventuellement... rencontrer. Nous, l'accession sociale ou l'accession tout court à la propriété, c'est pas forcément ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe et ce qui permet un peu de problématiser l'ensemble du canard, c'est tout le discours qui est autour de la mixité sociale. C'est-à-dire que le discours sur la mixité sociale, il est assez rigolo à analyser, parce que en fait, c'est ce qui permet aux socialistes de tenir à la fois ce qui serait un peu leur identité de départ, de fidélité un peu aux catégories populaires, etc., en disant on veut mettre des pauvres et des riches et puis que tout se passe bien et puis c'est génial, etc. Donc d'où le discours ambiant sur le fait que Cobry parvienne à conserver des quartiers populaires au sein de la ville. Mais en même temps, la mixité sociale, telle qu'elle fonctionne au concret et telle qu'elle est vendue parfois, c'est ce qui permet à des cadres de venir s'installer dans des quartiers où ils n'étaient pas auparavant. Et donc en fait, la mixité sociale, en elle-même, elle ne veut rien dire. Elle peut concerner des publics extrêmement différents les uns avec les autres. À Lille, elle est relativement introuvable, c'est-à-dire que les quartiers sont encore relativement polarisés. Et dans les quartiers où c'est de moins en moins polarisé, c'est-à-dire où il y a de plus en plus de mixité au sens objectif du terme, et on se rend compte que ça se fait au profit de ceux qui ont le plus de liquidités, et donc au détriment de ceux qui habitaient jusqu'alors et qui n'ont pas forcément d'autre choix que de partir vers les zones qui sont déjà un peu prolétarisées, enfin les zones les plus pauvres.
Donc dans Lille-Robé-Tourcoing, par exemple. Donc, après, c'est vous montrer la contradiction entre les titres des journaux, les titres des discours et la triste réalité. Voilà, c'est ça avant toute chose. Parce que quand on regarde les titres d'un journal ou les titres sur un site web, c'est hallucinant. On essaie de faire perdre aux gens la valeur des mots.
C'est sûr, c'est vraiment dû parce que ceux qui écrivent ces articles et qui font ces titres, ils vont pas dans les détails, ils se préoccupent pas des détails. Et c'est bien ce qu'on dit.
Oui, voilà, donc peut-être une petite pause musicale, vous écoutez Radio Campus Lille, nous étions en direct avec les journalistes de La Brique à propos de leur dernier numéro, le numéro 37 sur Lille, logement et habitat.
It's evolution.
Vous écoutez Radio Campus Lille, c'était Pearl Jam. Je ne connais pas. J'ai pas vu le titre du morceau. Si.
Do the Evolution.
Do the Evolution.
Oh, faites. Yeah.
Évoluer, qui disait évoluer. Évoluer. Bah, évoluer avec l'île Métropole Habitat, par exemple. L'île Métropole Habitat, Yann.
Oui, donc on a fait dans ce canard-là aussi donc une double page autour de LMH. LMH, l'île Métropole Habitat, du coup, qui est le bailleur social de l'île Métropole. Donc on a divisé ça un peu en deux avec un papier autour du bailleur en lui-même et puis un papier parole d'habitant. Le point de départ un peu du premier papier sur l'île Métropole Habitat en lui-même s'est déroulé un peu en deux temps, c'est-à-dire que au mois de juillet, en fait, les APU du Vieux-Lille et de Moulins ont occupé le local du bailleur pour interpeller en fait sa direction sur des expulsions locatives de familles et de personnes seules, voilà, qui devaient intervenir rapidement. Et avant d'occuper les locaux, elle s'est défendue d'un très beau courrier auprès de Linkenheld, de Cacheux, Aubry et Caudron. Et Alain Cacheux avait donné une réponse qui était pour nous assez choquante, assez marquante. Donc on avait gardé ça dans un petit coin de notre tête.
Alain Cacheux qui est le président de l'île Métropole Habitat.
Voilà, n'hésitez pas.
Ouais, carrément. Et du coup, la deuxième chose après, quand on a commencé à regarder le sujet un peu plus près, c'est qu'on s'est aperçu que du coup, LMH incarnait bien le fer de lance, ou l'outil en tout cas de la politique de peuplement de la métropole. En ça que, en fait, étant le bailleur avec le plus grand nombre de logements très sociaux, c'est-à-dire destinés vraiment à des classes populaires et des gens vraiment à très faible revenu.
Voilà, 30 000 logements, hein. 80 000 personnes, c'est
ouais,
ça?
C'est colossal.
Voilà. C'est colossal. C'est une ville. Hein.
Ouais. Du coup, il occupe une place privilégiée aussi dans la manière dont il va pouvoir proposer des mutations ou pas, et du coup, recomposer un petit peu les quartiers. Après, une des difficultés de ce papier-là, ça a été de pouvoir travailler autour de la collusion entre le pouvoir politique, le Parti Socialiste et l'instance de LMH elle-même. Donc des collusions qu'on est toujours en train de vérifier. D'ailleurs, on n'a pas lâché l'affaire et là-dessus, on sera sans doute en mesure de pouvoir en dire un peu plus prochainement.
Une longue enquête.
À savoir, en gros, par exemple, que du coup, voilà, quand on sait du coup que le directeur de l'agence de l'île Sud est le mari d'Audrey Linkenheld, forcément, ça peut causer un petit peu de conflit d'intérêts peut-être sur certaines situations.
Donc, Audrey Linkenheld qui est adjointe à la mairie de Lille en charge du logement.
Enfin, voilà. Qu'il ne l'est plus officiellement, mais qui est.
Ah ouais?
Qui est,
ouais. Bon, qui est à la tête de cette direction-là. Et pour nous, voilà, cette collusion-là, elle entraîne un peu deux mouvements différents. C'est-à-dire, d'un côté, donc, du coup, elle permet la mise en avant de la politique socialiste. Comme tout le monde est du même bord, plus ou moins, voilà, c'est très facile pour manœuvrer et mettre en route, du coup, cette politique de déplacement des classes populaires et la constitution de cette espèce de mixité qui, pour nous, ressemble plus, du coup, à une espèce de ségrégation spatiale organisée. Et d'un autre côté, un mouvement très lent, par contre, pour tout ce qui est en faveur plutôt des locataires, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir des travaux, des arrêtés d'insalubrité, du service d'hygiène contre le bailleur, une évolution au niveau de la reconnaissance des associations de locataires dans les instances de décision pour qu'elles ne soient pas juste présentes à titre consultatif. Donc voilà, toute la manière dont à la fois le mouvement et la paralysie du coup s'organisent. Donc ça, c'est un peu sur le fond du papier. Et ensuite, du coup, on s'est dit qu'on ne pouvait pas parler de LMH sans aller voir des gens qui étaient locataires, hein, du bailleur. Et on a décidé de s'attarder sur une tour en particulier qui est assez emblématique à Lille, hein, puisque a priori personne ne peut la rater. C'est la tour Marcel Bertrand qui se situe à Porte d'Arras, la tour multicolore aussi, comme on l'appelle. D'accord. Multicolore, c'est un bien grand mot. Et voilà, et là-dessus, il y a différentes choses qui nous intéressaient. Déjà, elle est emblématique aussi pour nous parce qu'historiquement, elle est connue parce qu'elle a été le théâtre de la mort de Riad Amlaoui en 2000. Un gars qui a pris une balle dans la tête lors d'un contrôle policier, donc ça avait déjà donné lieu à un petit focus sur cet endroit-là. Et puis ensuite, c'est là que la Voix du Nord fait son terrain, fait ses choux gras d'interventions policières et de petits reportages sensationnels en mode TF1. Et un dernier truc, c'est qu'un article du coup qui datait de de 2012 relatait l'investissement de 200 000 euros de réhabilitation en attendant la démolition. Démolition, du coup, que les gens attendent, je crois, pareil, depuis 2004, donc quasiment 10 ans. Et donc, voilà, donc on a été là-bas avec nos petits pieds.
Il faut savoir, cette barre-là, si je te coupe, cette barre-là, elle est symbolique. Il y a vraiment, il y a un an, il y a eu vraiment 2-3 articles de La Voix du Nord très assez important, avec des photos où on montrait tout un arsenal avec des flingues, des trucs, on a trouvé ça. Et en fait, si on regarde un peu dans la presse locale la façon dont on parlait de cette barre là on en parlait uniquement comme ça, quoi.
Ouais, uniquement en titre péjoratif.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Jamais les, donc, parce là, qu'il y a un tas de gens bien aussi là dedans
bah voilà. Et donc là, l'idée, bah, c'est sans savoir, c'est d'y aller. Ouais.
Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, bah voilà, ces clichés la plupart du temps s'effondrent, hein. C'est à dire que là, bon, on n'y a pas passé 6 mois, mais en tout cas, le temps qu'on y est passé, bah, y a en fait aucun souci pour discuter avec les gens. Hein, donc, faut voir si des fois certains journalistes se font caisser, c'est peut-être qu'ils posent des mauvaises questions ou qu'ils n'y vont pas tout simplement réellement pour parler aux gens, mais juste peut-être pour les filmer comme si c'était dans un zoo.
Ou à côté des flics.
Ou accompagné de la police ou derrière les flics. Et là, du coup, c'était juste hyper intéressant, du coup, de rencontrer les gens. Voilà, du coup, bon, je vous laisserai découvrir les témoignages dans le journal, mais après, c'est, voilà, les gens nous ont accueillis très simplement, voilà, en faisant très spontanément, en nous invitant très spontanément à nous poser sur leur canapé, raconter les soucis qu'ils avaient avec leur bailleur. Et là, du coup, vous verrez un peu toutes les difficultés que ça peut être pour faire changer une fenêtre qui est complètement défoncée par l'humidité, hein, des gens qui mettent des années à avoir ça, ou bien, voilà, après, pour un des témoignages qui, pour moi, Et un des plus forts, c'est cette maman de 5 enfants qui en avait ras-le-bol d'être dans un studio sur Bois Blanc, qui a entendu parler d'un logement vide dans ce bloc-là, et qui a elle-même défoncé la porte de son logement, qui s'y est installée avec ses 5 enfants, qui a été voir LMH ensuite pour leur proposer de payer des loyers. LMH a dit non, a porté plainte. Encore une fois, on voit que c'est un bailleur très très social. Finalement, par ironie, c'est les flics qui ont fini par lui dire qu'elle avait bien raison de s'être installée là, qu'elle n'allait pas rester à la rue avec ses 5 enfants. Et voilà, donc des histoires très très chargées. Et voilà, on s'aperçoit qu'en fait, quand on donne la parole aux gens directement, c'est souvent très très fort et très très direct. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est assez important et qu'on essaie de faire régulièrement et qu'on va pas lâcher.
Sachant que sur LMH, il faut aussi dire que, enfin, en fait, même de manière plus générale, le canard, on l'a un peu conçu comme une espèce de système de poupée russe, c'est-à-dire que chaque article, il entre en résonance avec le précédent ou le suivant ou d'autres, et qu'en l'occurrence, on ne peut pas comprendre la politique de LMH sans faire référence à des politiques plus générales qui sont structurelles et politiques et qui sont menées au niveau de la métropole notamment, c'est-à-dire que LMH, c'est dirigé par voilà, des personnalités dont on a pu esquisser quelques travers, mais c'est aussi des gens qui mettent tout simplement en œuvre ce qui a été édicté à d'autres endroits. Et en l'occurrence, ce qu'on montre dans un autre papier, hein, mais c'est qu'avec une enquête un peu de long terme sur la manière dont fonctionne la métropole, c'est que celle-ci peut très bien se gargariser du fait qu'on veut instaurer un seuil minimal de logements sociaux dans chaque commune, que même les maires de droite des communes riches avoisinantes se rangent à cet objectif, etc. Sauf que, concrètement, quand on regarde un peu la manière dont ça fonctionne, en fait, il se trouve que ben, les maires sont d'autant plus disposés à construire du logement social sur leur commune qu'ils savent déjà qu'ils n'accueilleront pas de... Alors, pour aller très très vite, mais malheureusement, c'est ça qu'on retrouve dans les discours de ces élus parfois, hein, mais pour éviter d'accueillir des familles d'Arabes qui viennent de l'île sud, de Roubaix, etc. etc. Donc le truc, c'est que, très concrètement, comment ça se joue? Il y a des commissions d'attribution qui réunissent des représentants de LMH, qui réunissent des élus locaux, et tous ces gens-là vont pouvoir discuter entre eux voilà, statuer de critères qui font que telle famille aura le droit ou non de changer de ville et d'arriver dans un cadre de vie peut-être un petit peu plus confortable, etc. Et les critères qui vont être retenus, c'est de dire, bah, écoutez, cette famille, je comprends, elle a des problèmes, mais même elle a trop de problèmes, moi je veux pas de problèmes, je suis un élu municipal, je dois être réélu, j'ai peur que cette famille apporte son petit lot d'insécurité, donc cette petite famille, elle va gentiment rester dans son ghetto. Et ça, c'est des choses que des élus disent, c'est des choses que les élus pensent, réfléchissent comme telles, et c'est ça aussi qui explique que LMH derrière, bah, va avoir des visées relativement limitées par rapport à son ambition initiale.
Et on avait vraiment voulu en plus essayer de rentrer un peu dans ces comités, dans ces cercles-là qui décident de la sélection, de qui va où, qui fait quoi, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens en fait qui se font blacklister tout simplement dans les logements sociaux, et que une fois qu'on a galéré pendant un ou deux mois à payer son loyer, après on est rangé dans une certaine catégorie, que les listes elles se transfèrent de bailleurs sociaux en bailleurs sociaux, et donc on n'est pas seulement tricard chez LMH, on est tricard chez Vilogia, on est tricard chez Partenor, on est tricard chez tous les gens qui font du logement social sur la métropole. Alors ça, on n'a peut-être pas réussi à aller assez en profondeur pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça, on sait que ça existe et que ça fonctionne comme ça.
Ouais, enfin, d'autant plus que, alors je sais plus, je crois que c'est toi, Tom, qui avait retrouvé la citation, mais c'est quand même assez magique. Il y a un élu, donc Gérard Caudron, qui est le maire de Villeneuve-d'Ascq, qui a quand même dit à un moment donné, s'il faut faire des commissions d'attribution en présence des journalistes, donc c'est-à-dire où les critères de validation pour l'attribution de tel logement pour telle famille, etc., sont rendus publics, et ben si on en est amené à faire ça, je vais vous dire comment ça va se passer. Dans ces réunions, on ne décidera de rien, on attendra que les journalistes s'en aillent, et ensuite on se remettra autour de la table, et là on trouvera les bons critères pour les bons critères.
Il y a des petits arrangements.
Maire de Villeneuve-d'Ascq et responsable logement à la LMC.
Il dit bien, il y a des arrangements, des petits arrangements qu'il faut garder privés, quoi.
Alors, pour ce qui est de la LMCU, n'hésitez pas, hein, allez sur le site de Radio Campus Lille, cliquez sur les pages, choisissez l'émission EULBCE, les bons calculs économiques. Vous pourrez réécouter la politique confisquée par Fabien Desage et David Guéranger. Donc, ils expliquent un peu comment ça se passe réellement à la LMCU et dans les municipalités de la région. Et d'ailleurs, vous les retrouvez dans ce numéro, Fabien Desage et David Guéranger.
Alors, David Guéranger, non, mais Fabien Desage.
Excusez-moi, c'était inspiré de leur livre, je pense, l'article. Hein,
voilà, on a fait une interview aussi qui est en ligne sur notre site.
Le site, http://labrique.net. Quand on fait une recherche sur Labrique Lille, pour l'instant, on tombe sur votre site. Il n'y a pas de problème. En premier.
Heureusement.
Donc, ça, c'était par rapport à la LMH et au logement social. Bon, il y a tout un nouveau quartier qui s'est développé avec un nom très poétique. Donc le bois habité ces dernières années sur l'île. Ouais. Enfin, j'y suis passé par hasard en voiture. Je vous donnerai mon ressenti.
Il y a des gens qui vont visiter le bois habité aussi en vélo, comme ça, ils vont découvrir. Il y a aussi plein d'architectes de toutes les villes de France qui viennent le visiter. Mais c'est intéressant parce que LMH montre bien ce que fait la métropole en termes de logements sociaux. Et puis le bois habité, c'est aussi très symbolique de la politique qui est menée par la communauté urbaine et la mairie. Alors pourquoi on a enquêté sur le bois habité? Comme tu l'as dit, c'est un nouveau quartier. Parce qu'il y a l'idée, effectivement, premièrement, d'une gentrification. Un embourgeoisement des quartiers populaires qui existent déjà. Mais l'embourgeoisement de la ville de Lille, il passe aussi, et ça c'est vraiment particulier à Lille, il passe par une construction ex nihilo qui part de rien, on va construire quelque chose. Donc c'est la particularité de Lille, c'est qu'il y avait sur la zone des remparts, hein, peut-être que Tonio tu pourras en parler un peu, une zone où on ne pouvait pas construire, hein, c'était une loi militaire. Donc à la fin il y avait un bidonville, etc. À la fin des années, enfin dans les années 80, il s'agit de construire sur cette zone.
Les Dondaines, c'est ça ?
Alors, il y avait les Dondaines, oui, c'est toute la zone non edificandi, les anciens remparts de Lille. Et ça représente aujourd'hui les constructions d'Ora Lille. Donc, justement, Pierre Mauroy, à ce moment-là, il se saisit de cette occasion de construire quelque chose sur un espace qui n'est pas loin du centre-ville, qui est à côté du centre-ville. Il faut construire quelque chose ici, quoi. Clairement, il veut sa cathédrale, il veut son œuvre architecturale, il veut son petit bijou. Marc Prévost, un journaliste qui a écrit un livre sur la politique de Pierre Mauroy, le dit très bien, c'est la cathédrale de Pierre. Et donc pour ce faire, il va s'appuyer sur une société anonyme d'économie mixte, la SEM Euralille. La SEM Euralille, donc, qui va être chargée de l'aménagement de toute cette zone. Ça va commencer avec Euralille. Et d'ailleurs, le premier directeur de la SEM, c'est Jean-Paul Baïetto, hein, c'était un collègue de Pierre Mauroy. Il explique qu'en 1995, l'idée avec Euralille, c'est... créer de la richesse, il faut créer de la richesse aussi, je le cite, hein. Si on ne fait que distribuer la rareté et la pauvreté, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Euralille est un élément de fiscalité, Euralille peut sécréter de la ressource fiscale qui permet à la ville de Lille d'avoir des modes d'action sur les quartiers plus défavorisés. comme on dit. Donc ça, l'idée pour lui, c'est de faire du fric avec Heure à Lille pour pouvoir redistribuer ce fric sur les autres quartiers, les quartiers populaires. Et c'est intéressant parce que l'actuel directeur, cette fois-ci, c'est plus la SEM Heure à Lille. La SEM Heure à Lille s'est transformée en SPL, en Société Publique Locale. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'actionnaires privés dans le conseil d'administration. Il n'y a plus que des actionnaires publics dans la SPL. Et l'actuel directeur, donc en fait, c'est un successeur du premier, Jean-Paul Baïetto, c'est Michel Bonnord. Michel Bonnord est venu faire un séminaire il n'y a pas longtemps à Lille 1 pour le Master Géographie. C'était en 2012. Et lui, il explique... Pour reprendre un peu, l'objectif d'Heure à Lille, c'est de raccrocher... Heure à Lille va raccrocher un quartier, je le cite, hein, le quartier de Lille Sud, qui est fortement dédié à de l'habitat social, et va tirer vers le haut la qualité urbaine de ce quartier. Donc, sur les termes, c'est intéressant. Et Michel Bonnord, juste après, dans son séminaire, explique que cette dynamique, donc celle-ci, raccrocher l'île sud et le tirer vers le haut, cette dynamique est loin d'être neutre. Il explique ça. Et alors, c'est vrai, c'est effectivement le cas, c'est loin d'être neutre, mais je pense qu'on ne voit pas les choses exactement comme ce qui se passe. Parce qu'au final, le bois habité, je pense qu'on le montre dans le papier qu'il concerne sur ce reportage, c'est un quartier... de classe aisée. C'est un ghetto même de bobos ou de riches, on peut clairement le dire.
Sous la forme des gated communities, quasi, quoi. On se protège derrière un écran de bâtiment. Et...
Alors, bon, la gated community, c'est particulier. Hein, les communautés fermées, il y a des grillages, il y a des gardiens, il y a de la vidéosurveillance, etc. Là, c'est pas le cas. C'est un quartier où on peut se balader. Les gens, ils vont en vélo pour regarder ce que c'est que le bois habité. Donc, c'est très ouvert. Par contre, il y a d'autres aspects de la gated community qu'on retrouve. Et. C'est notamment sur la vie de quartier. La vie de quartier qui est absolument inexistante.
C'est un ensemble d'aquariums posés l'un à côté de l'autre, presque.
C'est un peu ça, ouais.
C'est l'impression que ça m'a laissé. Au moment où je suis passé, j'ai croisé personne. Ouais. En plein jour.
Ça, c'est clair. La journée, on ne croise personne parce que les gens travaillent. Et quand ils ont fini le travail, ils rentrent le soir, ils restent chez eux.
Ça devait être un samedi ou un dimanche.
Hein. Ouais, voilà. Mais justement, là-dessus, on peut s'interroger sur comment ils ont construit ce bazar. Déjà, ils partent de rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas rénover quelque chose. Il ne faut pas reconstruire à partir de quelque chose. Il n'y a rien. C'est les sites de l'ancienne foire de Lille. Le site de l'ancienne foire de Lille, il est rasé. Et puis, on dit aux architectes, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez 21 hectares pour vous. Faites-vous plaisir. Et donc, le premier, celui qui va vraiment faire la première esquisse, le croquis général du bois habité, c'est François Leclerc. Donc, lui, c'est clairement ce qu'on appelle un architecte vraiment impossible à contacter. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois. C'est pire qu'un ministre. Hein. J'ai eu son assistante plein de fois au téléphone. J'ai eu un rendez-vous, mais il l'a refoulé, il l'a reporté, etc. Bon, c'était assez compliqué. Lui, son idée, c'est de faire du quartier habité un ambiance de sous-bois. Voilà, faire un quartier où on a l'impression de vivre dans un sous-bois. Donc c'est vraiment une idée de cet architecte.
Il y a des arbres dans ce quartier. Il y a des coins où on les voit pas.
Il y a des arbres, donc il joue beaucoup là-dessus aussi. Et puis après, donc lui, il a fait la première esquisse, ce François Leclerc, qui est impossible à contacter. Et puis après, les 21 hectares ont été divisés en îlots. Et à chaque fois, on a un maître d'œuvre, un architecte différent, un cabinet d'architectes différent qui travaille sur l'îlot en question. Donc, il n'y a pas trop de cohérence, en fait. Chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant. Et donc, sur les rencontres avec ces fameux architectes, justement, c'est très difficile de les joindre. Je suis aussi allé voir la SEM Heure à Lille, donc la SPL aujourd'hui, la Société Publique Locale, qui se charge de l'aménagement. Là aussi, j'ai eu du mal. Hein. Leurs locaux, ils se trouvent au 18e étage de la tour de Lille, la tour qui est en forme de chaussure de ski ou de L.
Ou de chaussures à Martine Aubry sur votre couverture.
Voilà, ces tours-là. Donc la SPL se trouve au 18e étage. On est très beaux locaux. On a une vue plongeante sur toute la ville de Lille. C'est magnifique. Des grandes baies vitrées, c'est énorme. Et puis là aussi, c'était difficile de rencontrer quelqu'un. Ils sont très, très chargés, etc. C'était dur. Bon, finalement, j'ai réussi à trouver l'architecte urbaniste qui a suivi le projet du bois habité de très près, David Vauty. Et puis, je me suis baladé avec lui dans le quartier. Et on a eu une discussion, ma foi, tout à fait intéressante, mais au final, il me contredisait sur pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pensé à la vie de quartier ? Non, ils n'ont pas pensé à la vie de quartier, ça, c'était pas le problème. Est-ce que vous êtes concerté avec les habitants qui habitent autour, dans les autres logements qui sont pas très loin à proximité ? Non, il n'y a eu aucune concertation. Est-ce que c'est un ghetto de riches ? Non, parce qu'il y a des logements sociaux. Bon, des logements sociaux, en réalité, il y en a très peu. Hein. Encore une fois, c'est des logements qui sont réservés pour les plus hauts revenus. Et la dernière chose aussi, c'est est-ce que vous avez réussi à rallier, à relier ce quartier du Bois Habité au reste de la ville ? Non. Non, c'est vraiment isolé. En face, il y a un quartier qui est très populaire, les bars Hoover, les quartiers sociaux, LMH. Il n'y a aucun contact entre le Bois Habité et ce parc du logement. Donc voilà. Après, je sais pas.
Ça permet d'isoler un peu plus, la banlieue sud de l'île, hein, où il n'y a quasiment aucun moyen de traverser quand on vient de... Enfin, il y a le Mont-de-Terre, il y a encore une route, mais
ouais.
Je veux dire, la communication physique... Par rapport au sud de l'île, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Hein.
Mais c'est là que tu vois, tout à l'heure, je disais gated communities. Alors, c'est peut-être pas ça, parce que là, gated communities, il y a vraiment des barrières, des vigiles. En tout cas, là, la frontière, elle est clairement symbolique. Quoi. C'est-à-dire,
symbolique.
Il suffit pas de mettre les gens les uns à côté des autres pour qu'à un moment donné, il y ait du dialogue, il y ait du lien entre... Je veux dire, on entasse, on fait ça complètement artificiellement et bureaucratiquement. On vient poser ces amas de personnes comme ça. Bah, il n'y a aucun lien qui se fait mécaniquement
Ouais, malgré les efforts de communication, parce que maintenant voilà, la société Euralil d'aménagement depuis 2 ans a une chargée de communication, donc ça c'est intéressant, ça n'existait pas avant, donc maintenant ils communiquent énormément, peut-être pour essayer de créer cette mixité en communiquant.
Béton, on verra après. Bon, donc mixité sociale, la LEF est à 3,95 dans le coin.
Il y a deux bistrots qui sont assez chics tous les deux, enfin un peu plus que l'autre, mais c'est assez cher, quoi. Les prix sont assez chers, il n'y a pas trop de...
On se rencontre au Franprix.
Voilà, le lieu de sociabilité, c'est le Franprix, c'est le petite supérette où tout le monde va et se rencontre, on parle avec les gens, sinon on a du mal à se rencontrer dans ce quartier. Et chose symbolique par rapport à ce que disait Yann tout à l'heure, quand il est allé à la bar Marcel Bertrand, les gens l'ont accueilli chez eux, ils l'ont mis à l'installer sur le canapé... Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans les appartements du Bois Habité. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Souvent, les gens me donnaient rendez-vous au bistrot, quoi. Enfin, à la brasserie à côté. Oui. Donc ça montre bien aussi une mentalité différente.
La peur.
Différente.
Ah, la
peut-être.
Peur.
Peut-être.
Donc, le Bois Habité. Bon, Pierre Mauroy n'aura pas de cathédrale. Il y a son grand stade.
Ah là,
ça devrait lui suffire. Bois Habité, il y avait aussi les Dondaines sur l'île.
Ouais.
Oui, bah ouais, il y avait aussi les Dondaines. Là, on a fait une petite double page en seconde partie de numéro. Alors, on a abordé ce quartier des Dondaines qui était en fait le plus grand bidonville de l'île dans les années 70. Dans les années 70. Et en fait, pourquoi on est revenu là-dessus ? Parce que ça fait un moment à la brique qu'on se dit que, voilà, depuis le début des années 2000, en gros, les bidonvilles sont revenus dans nos métropoles, en France plus largement. Donc, c'est par rapport à l'arrivée des Roms, notamment, quoi. Et donc ça nous a un peu interrogé. On a voulu essayer de se dire qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce retour de cet habitat là. On a surtout aussi voulu se dire la question des Roms, elle est surtout souvent prise en compte par le biais de l'immigration et la question de l'immigration. Nous, c'était pas du tout ça qu'on avait envie de voir. On avait envie de regarder les formes d'habitat. Quelles sont les formes d'habitat ? Et donc, on s'est dit que de faire un papier sur les camps de Roms, les campements de Roms qu'on a aujourd'hui depuis les années 2000, et d'essayer de voir ce qui était différent et ce qui ressemblait par rapport aux bidonvilles qu'on pouvait avoir dans les années 70. En France et à Lille, ça pouvait être instructif et ça pouvait être intéressant. Et de fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont en commun, notamment le fait d'avoir des populations qui soient complètement stigmatisées. Alors, dans le cadre du bidonville des Dondaines, on en parle, c'était notamment toutes les populations algériennes et après de tout le Maghreb qui arrivaient en France à ce moment-là et qui n'avaient pas d'autre choix que d'habiter dans ce bidonville-là. Et là, on voit qu'elles étaient, donc là, je donne un exemple, elles étaient accusées notamment de meurtres, de tout ce qui se passait autour. Et c'était eux, c'était leur caractère déviant, par nature, qui était mis en avant. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin de le démontrer. Enfin, je veux dire, les Roms, on les accuse des cambriolages, on les accuse de tout. Il y a des manifs contre eux, il y a des choses. Donc, il y avait vraiment ce côté-là, stigmatisation des populations qui revenait énormément. Ouais.
Il y a les articles de la presse pour ça, les titres des journaux de TV. C'est...
Voilà, il suffit d'allumer la télé, la radio ou d'ouvrir les journaux pour se rendre compte qu'on a affaire à une presse qui est complètement raciste, quoi, de fait. Ensuite, on se rendait compte qu'il y avait aussi un système D des habitants des campements et des bidonvilles, c'est-à-dire que eux ont été super inventifs sur les façons de construire leur logement, de se loger, des façons de trouver des un peu d'argent, de travailler aux blagues dans certaines activités. Donc on voit les chiffonniers, la ferraille. Donc aujourd'hui on voit que la ferraille elle est revenue aussi.
La ferraille elle est revenue.
C'est une grande activité et c'était déjà, il y avait tout un quartier de ferrailleurs sur le bidonville des Dondaines des années 70.
J'aime bien les croches-poubelles.
Les croches-poubelles,
voilà, c'est un mot que je connaissais pas.
Les croches-poubelles, ils se baladaient avec des baladeuses, ils disaient des baladeuses, c'était des charrettes à bras en fait, avec lesquelles, aujourd'hui les charrettes à bras elles ont été remplacées par des petites charrettes derrière les mobilettes ou même des fois des poussettes qui servent à y mettre tout un tas de choses pour pouvoir les amener jusqu'à la décharge.
En sachant que quand il y a la récolte des encombrants sur toute la région, c'est le défilé. Je ne compte pas le nombre de voitures qui passent dans ma rue, qui s'arrêtent. C'est plus de 100.
Les encombrants, ça marche
pas. Là, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent de fait bout de la société de consommation. C'est-à-dire qui vont... Les choses que nous, on jette, eux vivent avec. Et donc là, on se rend compte qu'on est vraiment dans quelque chose qui est assez particulier.
C'est une façon de recycler.
Ouais, voilà, de fait, c'est peut-être le meilleur recyclage. Et le dernier point sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté dans ces deux articles, mais qui nous semblait important, c'est que quand ces bidonvilles et ces campements sont détruits et que les gens sont déplacés, c'est bien souvent pour des grands projets urbains, des grands projets qui sont... Alors, dans le cadre des bidonvilles des Dondaines, c'était Euralil, en fait, quoi. C'était vraiment à ce moment, à l'emplacement même d'Euralil, et qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles constructions d'Euralil 2. Le bidonville se trouvait exactement là. Et puis, on l'a pu le voir pour le camp de Rome de l'île sud, c'est pour y construire, alors je me rappelle plus quel projet directement, mais il y a Décathlon qui doit s'installer là, et puis il y a tout le programme de rénovation urbaine de l'ANRU qui vient construire logement, qui vient construire activité, et donc voilà, ces gens-là sont expulsés pour y mettre du nouveau et pour y mettre
on expulse
du beau
les Roms pour installer Mulier, quoi. Enfin, c'est aussi clair que ça.
Ouais, voilà, sur le camp de l'île sud, c'est pas beaucoup.
Il aime pas se déplacer, ce monsieur, donc comme il habite sur Croix, Croix M, donc voilà, c'est Villeneuve-d'Ascq.
Voilà, donc c'était bidonville d'hier, campement d'aujourd'hui, et quels sont, au-delà de la question de l'immigration et du racisme, qu'est-ce qu'on peut voir de commun entre ces deux situations?
Voilà, alors après, une manière de rebondir aussi sur ce que vient de dire Tonio, c'est que tout au long du numéro, en fait, on a essayé un petit peu de croiser les angles d'approche, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé donc de Desage qui est un sociologue, on a parlé de la parole des habitants de la tour Marcel Bertrand, donc voilà, on essaye d'osciller entre la réalité des gens et puis des processus plus structurels qu'on a essayé de dégager. Une autre forme de parallèle qu'on a essayé d'établir, c'est entre le présent et le passé. Donc effectivement, le parallèle entre les Dondaines et ceux qui habitaient les Dondaines et les Roms aujourd'hui, il y a effectivement des ressemblances assez troublantes. Il y a d'autres parallèles qui méritent d'être esquissés, c'est notamment ce qui est tout l'enjeu du papier qui est dévolu donc à la lutte de l'Almagar, qui a lieu dans les années 70, donc l'Almagar qui est un quartier de Roubaix, où en gros toute l'histoire qui est racontée, c'est que grosso modo, il y a à un moment donné des opérations de démolition qui sont prévues par la mairie, avec toujours cette idée donc de réhabiliter le quartier pour attirer des riches et puis remonter le solde des impôts locaux. Alors, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que les gens, ils ont refusé ces projets de démolition bureaucratique. Ils sont regroupés entre eux. C'est le premier atelier populaire d'urbanisme qu'on trouve donc dans le coin. Ils se sont regroupés. Le truc, il a assez bien fonctionné et à tel point qu'à mon avis, à notre avis, c'est quelque chose qui mériterait d'être maturé encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont regroupés entre eux. Ils ont partagé le ressenti, les aspirations, les connaissances des habitants avec la venue de techniciens qui ont bien voulu leur prêter main forte, etc. Au point qu'ils ont proposé un modèle alternatif à ce qui était prévu par les plans bureaucratiques. Ce truc-là, il a fonctionné pendant plusieurs années. Il a fini par se casser la gueule au début des années 80, ce qui fait que l'Almagar est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de mythifier un peu cette expérience-là, mais d'en tirer un peu des éléments assez forts. Et en l'occurrence, peut-être l'élément le plus fort, c'est le fait que c'est déjà le fait d'oser s'opposer à des plans bureaucratiques, premièrement. Deuxièmement, c'est de maintenir toujours les dessins qu'on construit ensemble à partir des aspirations des habitants eux-mêmes. Et troisièmement, donc, c'est ce lien entre mobilisation et des savoirs experts, quoi. Et donc, pas faire en sorte que l'expertise elle soit découplée, détachée de ce qui se passe dans le quotidien des gens, quoi. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans ce qui est en train de se passer à Oisem. C'est-à-dire, bon, la problématique, elle est pas la même, hein, mais il y a des points de similitude qu'on peut éventuellement retrouver. C'est-à-dire que depuis 30 ans, à peu près, donc, le quartier d'Oisem se gentrifie petit à petit. C'est pas évident, hein, donc c'est-à-dire que on est peut-être un petit peu, enfin, voilà, quand on parle de gentrification, donc c'est-à-dire le fait que les quartiers du centre s'embourgeoisent. Quand on parle de la gentrification du quartier d'Oisem, on a un peu l'impression que c'est, voilà, des trucs inéluctables qui se passent en 2-3 mouvements, qui sont planifiés bureaucratiquement et qui se terminent 5 ans plus tard. À Oisem, c'est pas ça qui s'est passé, c'est-à-dire que cette aspiration-là, elle date des années 70 et qu'il y a une première tentative de gentrification qui commence dans ces années 70. Cette première tentative, elle se casse la gueule, pareil, parce qu'il y a des habitants qui se mobilisent. Alors je dis pareil, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que, et c'est là où on rentre un peu dans les détails de la mixité sociale, des procédures d'identification, dans ce que ça peut avoir d'un petit peu compliqué, c'est que les gens qui se mobilisent, c'est ceux qui ont les capacités de se mobiliser, c'est-à-dire souvent des gens qui savent prendre la parole, qui savent comment s'organiser, c'est-à-dire qui savent comment alerter les médias, comment parler aux médias, etc. Bref, en gros, ceux qui sont propriétaires de logements et ceux qu'on désigne de manière un petit peu courte habituellement, donc les bobos. Donc les bobos, ils ont réussi à mettre un frein au projet urbanistique de la mairie et de Pierre Mauroy. Mais les bobos, par eux-mêmes, ont contribué à moyen terme à gentrifier une partie d'Oisem. C'est-à-dire que dans Oisem, grosso modo, il y a trois zones. Hein. Il y a une zone qui historiquement a toujours été bourgeoise, qui est donc au nord ou à l'ouest.
Colbert, là, c'est ça.
Voilà, à partir autour de la rue Colbert, hein, donc dont les gens qui habitent dans ce coin-là se revendiquent pas du tout l'identité oisemoise, etc. Il y a un deuxième Oisem qui va grosso modo de la place du marché jusque au théâtre Sébasto et qui est donc le centre névralgique de ce processus de gentrification. Donc, c'est-à-dire que les gens qui s'opposent au plan bureaucratique, c'est eux qui, malgré eux, hein, évidemment, mais vont assurer petit à petit le remplacement progressif des ouvriers, des petits artisans, des petits commerçants par, voilà, des médecins, des enseignants, des architectes, etc. etc. Et le troisième Oisem, c'est celui auquel on s'attaque aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le Oisem qui se situe beaucoup plus au sud, qui longe un peu la rue des Postes jusqu'au périphérique et qui subit petit à petit aussi les coups des bulldozers, les plans bureaucratiques, etc. etc. Et là, le problème, c'est que il n'y a pas de lutte organisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité entre, d'une part, les familles populaires qui subissent ces mutations de plein fouet, et d'autre part, alors, bon, c'est là où c'est un peu chiant, y compris pour nous, hein, mais ce qu'on appelle les bobos, sachant que dans les bobos, il y a plein de choses différentes, il y a les bourgeois bohèmes, les bourgeois bourgeois, les bohèmes bohèmes, bon, nous, on sait pas comment se positionner par rapport à ça, mais il y a plein de jeunes étudiants, de jeunes précaires, de jeunes artistes sans thunes, d'intermittents, etc., qui participent malgré eux à la gentrification du quartier, au sens où ils imposent, voilà, des activités culturelles, etc., qui font pas partie de l'ordinaire des familles populaires, etc., et qui sont pris dans un entre-deux, dans la mesure où eux, ils ont pas de thunes, mais de fait, ils contribuent à modifier la nature du quartier. Et après, il y a les autres, hein, les bourgeois bohèmes ou les bourgeois bourgeois, hein, ceux qui ont beaucoup plus de capital économique en plus de leur capital culturel, et que concrètement, on n'en a rien à foutre de la manière dont évolue le quartier, ou qui plutôt appuie le fait que le quartier puisse changer aussi rapidement que possible. Alors voilà, c'est quelques exemples qu'on prend très, très vite fait dans le papier, hein, mais ce que disait Tom tout à l'heure à propos de ce qu'il a rencontré au Bois Habité, à savoir les crispations des habitants sur leur petite propriété ou leur petite location, c'est des trucs qu'on peut retrouver dans certaines résidences privées du quartier, où les gens sont très attentifs au fait qu'il n'y ait pas des gens extérieurs à cette résidence qui s'incrustent. Voilà. Donc tout l'enjeu, c'est ça. C'est qu'Oisem est en train de se gentrifier à moyen terme. On voit fleurir toute une série de petits bars un peu branchés qui se revendiquent plus ou moins de l'héritage, de ce qui est en train de se passer du côté de Solfay, Masséna, etc. Et voilà, donc le quartier se gentrifie. Et il n'y a pas pour le moment de mobilisation collective qui associerait donc pour aller vite, très vite, les jeunes précaires et les familles populaires qui permettraient de mettre un frein à ces trucs-là.
Vous écoutez Radio Campus Lille, il nous reste à peu près 2 minutes avant l'émission suivante, Fenêtre sur le monde. Yann ou Tonio, une petite conclusion
Un dernier petit mot. Donc voilà, on vous a présenté un peu une bonne partie en fait de ce qui fait le numéro, mais les articles sont à il y a beaucoup plus de choses, il y a d'autres articles dont on n'a pas pu parler. Juste pour rappeler, peut-être rapidement, vous pouvez nous retrouver pour ce coup-ci dans tous les kiosques de la métropole lilloise. On a en plus un réseau de ce qu'on appelle des dealers, c'est-à-dire des petits vendeurs en dehors des kiosques qui nous vendent et qui nous distribuent. Et les crier le plus souvent possible, notamment au marché d'Oisem le dimanche. On essaye d'être là les alentours de 11h30, midi et demi. Quoi.
Investissez dans la brique.
Investissez, c'est 2 euros, c'est pas cher. Faites comme les bourgeois, achetez votre journal.
Ou abonnez-vous.
Abonnez-vous.
Eh bien, j'espère que vous repasserez sur nos antennes.
Ah bah quand tu veux.
Il y a des bonnes habitudes à prendre.
Exactement.
Voilà. En sachant que le prochain numéro, ce sera approximativement début pour mi-janvier.
Début janvier, ouais.
Voilà. Vous écoutez Radio Campus Lille, donc je vous laisse avec Fenêtre sur le monde. Louis, actualité interculturelle, autre mode de vie, et agenda et voyage musical,
et
à bientôt.
Blablabla et blablabla.
Blablabla et blablabla et blablabla. À bientôt, au revoir.
Salut,
merci André.
À bientôt.
Je ne pourrai pas respirer un air, un autre air que celui de ma si bonne vieille ville, que l'air de Lille, l'air de Ouessant, l'air de Poissy me glace le sang, me pétrifie, tandis qu'en humant l'air de Lille, je reste tranquille. L'air de Conflans, l'air de Clichy me tue, m'exténue, m'asphyxie, il me laisse prostré, immobile, faible et fébrile. L'air de Yerlet, l'air de Chambéry, l'air d'Armentières, l'air de Paris me rendent malade tant ils me sont hostiles. Durant ma longue vie d'aventure, j'ai traversé beaucoup de pays. J'y ai vu mille villes et je jure que j'eus préféré rester ici, que j'eus préféré rester à Lille, dans cette ville que je chéris, la seule à me prêter un asile où je puis respirer sans souci. Je ne pourrai pas respirer un air, un autre air que celui de ma si bonne vieille ville, que l'air de Lille, l'air d'Orléans, comme l'air de Lan, ont dans le fond comme un relent, si dur, si rude, si violent, qu'il m'horripile. L'air de Toulon, l'air de Floyon, m'étouffe, me font des façons de m'effacer de mes fonctions si difficiles. L'air des Vianhoux, l'air de nos gens, sans vouloir paraître exigeants, sont trop flués, inconsistants, pauvres et graciles. L'air de Brest, où l'air d'être taille, c'est la peste qui s'abat, je reste dans un piètre état, proche du fossile. L'air de Lyon me fait mal au cœur, l'air de Rion me donne des langueurs, et je pleure des heures ce malheur d'être en exil. L'air de Poitiers, l'air de Dijon me laisse moitié moribond, je les inhale et pour de bon ils m'annihilent. Et quand j'inspire l'air de Fréjus, je prends un genre de courjus, en une seconde pas plus ma vie défile. L'air de Bastia, l'air de Calvi sonne mon glam haute la vie, il n'est qu'un air que j'assimile. Et cet air là, je ne vous dis que ça, ça tombe pile, je vous le donne en mille, c'est l'air de quoi? C'est l'air de Lille. Je ne pourrai pas chantonner un autre air que l'air que voici, qui chante ma bonne vieille ville, c'est l'air de Lille. L'air d'Avignon, quand je l'entonne, ne tourne plus rond, car plus personne ne danse sur son pont fragile de danse futile. L'air de Paris, tiens, encore lui, assis souvent hanté nos nuits, je ne le chante plus, tant pis, je coupe le fil. Je ne pourrai pas chantonner un autre air que l'air que voici, qui chante ma bonne vieille ville, que l'air de Lille.